Le roi trouvé.
Les princes de ce temps-là avaient besoin d'un nain. Les couples de pauvres gens considéraient presque comme une chance de mettre au monde un avorton de cette sorte. Ils avaient la certitude de le vendre un jour à quelque grand seigneur, sinon au roi lui-même. Car le nain, nul n'eût songé à en douter, était un être intermédiaire entre l'homme et l'animal domestique. Animal parce qu'on pouvait lui mettre un collier, l'affubler comme un chien dressé de vêtements grotesques, et lui envoyer les coups de pied aux fesses. Homme parce qu'il parlait, et s'offrait volontiers moyennant salaire et nourriture à ce rôle dégradant. Il avait à bouffonner sur ordre, sautiller, pleurer ou niaiser comme un enfant, et cela même quand ses cheveux devenaient blancs. Sa petitesse faisait ressortir la grandeur du maître. On se le transmettait par héritage ainsi qu'un bien de propriété. Il était le symbole du sujet, de l'individu soumis à autrui par nature, et créé tout exprès, semblait-il, pour témoigner de la division de l'espèce humaine en races différentes, dont certaines avaient pouvoir absolu sur les autres. L'abaissement comportait des avantages. Le plus petit, le plus faible, le plus difforme, prenait place parmi les mieux nourris et les mieux vêtus. Il était également permis et même ordonné à ce disgracié de dire au maître de la race supérieure ce qui n'eût été toléré de nul autre. Les moqueries, les reproches, les insultes que tout homme, même le plus dévoué, adresse parfois en pensée à celui qui le commande, le nain les proférait pour le compte de tous, comme par délégation. Il existe deux sortes de nains. Ceux à long nez, à face triste et à double bosse, et ceux à gros visage, nez court et torse de géant, montés sur de minuscules membres noués. Le nain de Philippe de Valois, Jean le Fol, était de la seconde sorte. Sa tête arrivait juste à hauteur des tables. Il portait grelot au sommet de son bonnet et sur les épaules de ses robes de soie. Ce fut lui qui vint dire un jour à Philippe en tournoyant et en ricanant « Tu sais, mon sire, comment le peuple te nomme ? On t'appelle le roi trouvé !» Car le vendredi saint, 1er avril de l'an 1328, Madame Jeanne d'Évreux, veuve de Charles IV, avait fait ses couches. Rarement dans l'histoire, sexe d'enfant fut observé avec plus d'attention à l'issue des flancs maternels. Et quand on vit que c'était une fille qui naissait, chacun reconnut bien que la volonté divine s'était exprimée et l'on en éprouva un grand soulagement. Les barons n'avaient pas à revenir sur leur choix de la Chandeleur. Dans une assemblée immédiate où seul le représentant de l'Angleterre fit entendre, par principe, une voix discordante, ils confirmèrent à Philippe l'octroi de la couronne. Le peuple poussait un soupir. La malédiction du grand maître Jacques de Molay paraissait épuisée. La branche aînée de la race capétienne s'achevait par trois bourgeons séchés. L'absence de garçon, en toute famille, fut toujours considérée comme un malheur et un signe d'infériorité. À plus forte raison pour une maison royale. Cette incapacité des fils de Philippe le Bel à produire des descendants mâles semblait bien la manifestation d'un châtiment. L'arbre allait pouvoir repartir du pied. De soudaines fièvres saisissent les peuples, dont il faudrait chercher la cause dans le déplacement des astres tant elles échappent à toute autre explication. Vagues d'hystérie cruelle, comme l'avait été la croisade des pastoureaux et le massacre des lépreux, ou vagues d'euphorie délirante comme celle qui accompagna l'avènement de Philippe de Valois. Le nouveau roi était de belle taille et possédait cette majesté musculaire nécessaire aux fondateurs de dynastie. Son premier enfant était un fils âgé déjà de 9 ans et qui paraissait robuste. Il avait également une fille, et l'on savait, les cours ne font point mystère de ces choses, qu'il honorait presque chaque nuit sa boiteuse épouse avec un entrain que les années ne ralentissaient pas. Doué d'une voix forte et sonore, il n'était pas un bafouilleur comme ses cousins Louis Hutin et Charles IV, ni un silencieux comme Philippe le Bel ou Philippe V. Qui pouvait s'opposer à lui? Qui pouvait-on lui opposer? Qui songeait à écouter dans cette liesse où roulait la France la voix de quelques docteurs en droit payés par l'Angleterre pour formuler, sans conviction, des représentations?